Et c'est Pascal Leu que j'accueille maintenant sur cette libre antenne. Bonsoir à vous, Pascal.
Bonsoir. Bonsoir, Céline.
Bienvenue.
Allô ?
Oui, je vous écoute, Pascal.
Oui, vous venez de passer ma chanson préférée. Donc, moi, déjà, je voulais vous dire à quel point j'avais été bouleversée par les témoignages que j'ai entendus sur le monsieur là, qui était obligé de dormir dans sa voiture à cause de sa femme décédée.
Qui porte le même prénom que vous ?
Comment ?
Il porte le même prénom que vous.
Ah oui.
Il s'appelle Pascal. Ouais.
Et puis, une autre jeune fille là, qui avait perdu son chien Coda. Enfin, je vous écoute.
C'est Laura qui nous a envoyé un grand appel au secours vendredi parce qu'elle allait préparer l'émission La France a un incroyable talent avec son cocker Coda. Et son cocker s'est échappé pendant le tournage. Et malheureusement, moi, je guette tous les jours s'il y a du nouveau. Et pour l'instant, il n'a toujours pas été retrouvé. Je dis ça pour ceux qui ont suivi l'émission de vendredi. Du côté de Courbevoie, on est toujours à la recherche de ce cocker qui a priori, serait dans les rues en cavale en ce moment. J'espère vraiment chaque jour qu'on aura de bonnes nouvelles pour elle et pour Coda.
Oh bah oui, quelle horreur. Oui, non, moi je voulais témoigner pour une autre chose, c'est-à-dire que, en fait, là je suis dépressive depuis l'enfance, enfin depuis l'adolescence. Et il se fait que sur ma route j'ai trouvé des êtres extraordinaires comme des chiens, des chats, enfin que j'ai jamais été chercher dans des refuges, mais qui ont été. Enfin, qui se sont trouvés sur ma route, qui étaient abandonnés, et qui ont fait que j'ai vécu pour eux. Et à chaque fois et je me disais, bon, bah, quand ils partiront, je partirai aussi, puisque j'ai toujours eu envie de me suicider. Et mardi dernier, mon chat est décédé dans mes bras, avec le véto et mon ex-mari autour. Et j'ai arrêté de prendre tous mes médicaments. Je me suis dit, bon, ben là, c'est la fin. Et ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, j'ai une énorme crise atroce, mais vraiment de dépression, où j'avais envie de me passer par la fenêtre. Et j'ai appelé un centre d'accueil psychiatrique pour m'aider. C'est-à-dire pour être entendue, accueillie.
Prise en charge, quoi, accueil. Oui.
Malheureux. Et le problème, c'est que là, le psychiatre a décidé de m'hospitaliser d'office. Et il y a quelque chose qui m'a toujours révoltée. Et ça, c'est un témoignage. Enfin, je vais peut-être faire hurler les gens, mais je comprends pas qu'on a tant à la liberté des gens de. C'est-à-dire, ils ont tellement peur que je me suicide que. Ils ont préféré me mettre dans une espèce de cellule très froide où je n'ai aucune affaire, où je risque à tout moment de me faire prendre mon téléphone. Et tout ça pour... moi, mon ressenti, c'est que j'aurais été beaucoup mieux avec quelqu'un qui m'écoute avec compassion, avec chaleur, plutôt que de m'hospitaliser dans une chambre, enfin, ce que j'appelle une cellule. Et où personne ne vient, où on m'a laissé complètement seule. Donc ça me donne encore plus envie de mourir. Donc, alors déjà, j'ai envie de dire à quoi ça sert de... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une sorte de teinte à la liberté. Et bon, alors c'est vrai que c'est un peu de ma faute, parce que dans ces cas-là, j'aurais jamais dû appeler. Mais en même temps, quand on est très très mal... Je pense qu'on devrait être en droit d'avoir un accueil qui vous force pas forcément à vous enfermer d'office. C'est ce que je pense. Je voulais témoigner.
Je comprends. Oui, je comprends tout à fait, Pascal. Et en même temps, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Si vous appelez en disant que vous avez envie de vous suicider, ils veulent pas prendre de risques pour vous mettre en sécurité. Ils sont obligés aussi de faire ça.
Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas trop leur problème. Et puis, je veux dire, c'est pas des conditions que, ok, qu'ils me, Ok, qui me protège, mais là, on ne me protège pas du tout. Là, vous voyez, je suis très traumatisée. Je suis hospitalisée, je suis toute seule. Je ne sais pas ce qui va m'arriver demain, parce que je suis quand même toute seule dans la vie. Et ce n'est pas la meilleure façon pour moi de me protéger. J'aurais eu un soutien chaleureux. Bon, ben, j'aurais été beaucoup moins dangereuse pour moi-même, quoi.
Ah,
Enfin,
vous avez été
j'ai du
hospitalisé
mal à
quand?
m'exprimer, mais.
Non, c'est clair. Vous avez été hospitalisé quand, Pascal?
Bah, là, aujourd'hui, on a décidé. J'ai dit je viens au centre d'accueil, mais c'est juste pour parler à un psychiatre. Et la psychologue a été très gentille, et la psychiatre a dit non, vous restez là et on verra demain. Donc, c'est un peu comme si. Je n'ai même pas droit. Enfin, c'est pire que les gens qui vont en prison. On n'a pas droit à un avocat. On reste là au bon vouloir des gens. Et évidemment que c'est de ma faute. J'aurais pas dû appeler, mais je me dis dans un sens, quand on appelle, on cherche du réconfort et on se retrouve hospitalisé dans des conditions horribles.
Et je suis très
Et
surprise,
c'est pas la
Pascal,
première fois que ça m'est arrivé. Un jour, j'ai voulu me soulager en écrivant. Enfin bon, c'était un peu idiot de ma part, en écrivant un mot sur un forum d'aide pour les gens dépressifs. Et j'ai vu la police et moi qui m'ont mis dans une cellule de l'IPPP. C'était atroce. D'ailleurs, je suis traumatisée encore depuis 6-7 ans. Et si mon ex-mari n'était pas là, on m'aurait enfermée et voilà. Et je déplore ça. Je déplore qu'il n'y ait pas d'autre façon de protéger les gens que de les enfermer comme ça.
plus en douceur.
En douceur, voilà.
Je suis très surprise, Pascal, qui vous a laissé votre téléphone portable.
Bah, moi, je suis aussi surprise. D'ailleurs, j'ai peur de ne plus avoir de batterie parce qu'ils ont pris mon, comment dire,
Votre chargeur?
mon chargeur.
Parce
Un
que normalement,
petit
ils
chargeur.
prennent le téléphone aussi direct, hein.
Non, bah là, ils m'ont pris mon sac, ils m'ont tout pris. Et j'ai juste le téléphone. Donc.
Bon, ce que j'entends en même temps dans votre récit, c'est que vous avez rencontré une psychologue qui avait l'air plutôt douce et plutôt sympathique.
Oui.
Bon, ça veut dire
Mais
qu'avec un peu de chance, vous allez la retrouver probablement à partir de
non.
demain ou après-demain.
Non, justement, elle m'a dit que justement, elle, je voulais bien la voir parce que j'en ai fait besoin d'un psychologue et d'un psychiatre
Oui.
parce que j'ai pas supporté du tout le décès de mon chat. Mais en même temps, non, elle m'a dit qu'elle ne serait pas là, donc on va m'attribuer d'office des psychiatres et des psychologues qui ne correspondront pas forcément parce que j'ai déjà essayé le CMP près de chez moi. Et c'était un peu sordide, c'est-à-dire qu'on prenait 5 minutes et après on m'envoyait bouler. Donc je sais plus comment faire. Donc
Vous ne pouvez pas demander à la revoir, cette dame-là?
bah, je vais essayer demain, mais elle m'a dit non, qu'elle travaillait dans un autre CPOA et qu'elle ne pourrait pas me revoir.
Posez
Donc c'est très très
quand même
difficile.
la question, ça ne coûte rien, hein?
Ah ben je lui ai déjà posé la question, elle m'a dit que c'était impossible.
Mais je trouve ça
Parce qu'en fait, c'est
que
un
ouais.
centre de dispatching et moi, on vous affecte dans un secteur et voilà, donc je sais pas à quelle sauce je vais être mangée, mais enfin, c'est pas le problème, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a vraiment. Je comprends pas qu'on puisse hospitaliser contre leur gré des gens qui vont déjà mal juste pour les protéger d'un suicide qui ne regarde qu'eux-mêmes d'ailleurs. Parce que. Enfin bon, c'est peut-être difficile à entendre, je sais pas,
Non, mais
mais.
vous savez à quel point le système psychiatrique en France va mal, à quel point ils sont eux-mêmes débordés, ils n'ont pas forcément les structures qu'il faut, ils n'ont pas forcément le personnel qu'il faut.
Non, mais je leur en veux pas du tout, hein.
Et je
J'ai
pense qu'ils
aucun.
font un peu dans l'urgence, vous voyez, ils partent au plus pressé. Mais qu'est-ce qui vous empêche demain de leur dire que vous ne voulez pas rester là et de signer une décharge pour si vous voulez sortir?
Mais parce que j'ai insisté aujourd'hui et on m'a dit non, non, on vous garde. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et c'est-à-dire que je rentre en placement libre et après le médecin me force, me met en placement d'office.
Ils estiment que vous êtes en danger si vous ne restez pas.
Voilà, et je trouve, je crois à l'astrologie, je ne sais pas, je suis verso, ascendant verso, donc je suis pour les libertés, et je me dis, mais qu'est-ce que ça peut faire si je me suicide? Bon, c'est vrai que je suis ambivalente, puisque j'aurais jamais dû appeler, mais je n'avais pas le courage ni de me suicider, et je n'avais pas non, et j'étais trop mal pour ne pas appeler.
Je comprends.
Donc,
c'est ça, il y a deux parties en vous, il y a une partie qui a vraiment besoin qu'on l'aide. Et ça serait bien que vous arriviez à écouter cette partie-là, lâcher un peu prise et dire après tout, puisque j'y suis, eh bien autant que j'accepte l'aide qui va m'arriver demain, après-demain. Peut-être que la nouvelle thérapeute, la nouvelle psychologue qui va venir sera très bien.
Oui, oui. Mais là, en fait, c'était plutôt un témoignage. Enfin, pas trop pour moi, parce que là, je m'en fiche complètement. De toute façon, maintenant, ce qui peut m'arriver. Mais c'était pour... Je voudrais quand même que ça change, quoi, que les personnes qui souffrent soient dans un espèce de cocon accueillant et réconfortant, et pas qu'on les mette dans une cellule comme une prison et qu'on les laisse à l'abandon sans leur parler, c'est ça que je comprends pas.
Alors je pense que c'est pas effectivement, vous le ressentez comme ça. Parce que vous êtes là en souffrance, c'est pas vraiment une cellule comme une prison, c'est une cellule dans laquelle vous êtes en sécurité. Et ils vous ont pas abandonné puisqu'ils vont être là dès demain matin pour venir vous prendre en charge et vous proposer un suivi.
Oui, mais vous voyez, moi j'aurais été mieux chez moi, j'avais juste une crise d'angoisse, j'aurais aimé juste être écoutée. Et puis après qu'on me laisse repartir chez moi tranquillement et j'aurais pas fait de...
Mais vous n'étiez pas chez vous tranquillement, vous me le disiez vous-même, Pascal. C'était des crises d'angoisse,
des crises de détresse horribles. C'était des crises de détresse horribles.
Donc ça ne s'appelle pas être chez soi tranquillement. Quand on a ça, c'est qu'on a besoin d'aide.
Non, mais je veux dire là maintenant que j'ai. En fait, c'était parce que j'étais terriblement seule avec mon chat malade et en fait le fait de parler. M'aurait suffi à me calmer, c'est ça que j'essaie de dire. C'est le fait de parler, puisque je suis seule au monde, le fait de parler à quelqu'un aurait suffi à me calmer. Et là, je me suis sentie piégée ou presque punie d'être hospitalisée.
Oui, je comprends.
Mais d'office.
Vous m'avez dit pour commencer cette conversation que vous êtes dépressive depuis toujours, même petite, même enfant.
Oui, je suis dépressive à cause de, je ne sais pas trop quoi, d'une mère névrosée qui n'avait pas le temps de s'occuper de nous parce qu'elle était trop encombrée de ses problèmes. J'avais un père qui me frappait. L'adolescence, ça a été horrible parce que je plaisais à personne, j'avais aucun succès. Donc, pour moi, l'amour, c'était tout. Donc, si vous voulez, j'ai été J'étais très malheureuse et puis après je suis tombée sur un type formidable qui était mon psychiatre, qui était quelqu'un de merveilleux et qui est la seule personne à me comprendre, mais qui a à peu près les mêmes idées que moi sur la liberté de... Enfin bon, mais qui malheureusement, même d'affection, mais ne m'aime plus d'amour, donc qui m'a quittée. Et voilà.
Vous avez vécu une histoire d'amour avec votre psychiatre ?
Oui, c'est-à-dire qu'il a, à un moment, il a arrêté la thérapie et il m'a dit, voilà, je suis amoureux de vous. Donc on a vécu, on s'est mariés et comme ensuite il me trompait pas mal, parce que c'était un grand séducteur et c'était un... Enfin voilà, il avait... Donc on s'est quittés, mais on a toujours gardé des bonnes relations. Jusqu'au jour où il est parti, enfin moi j'habite Paris et lui il est parti à Compiègne. Et là donc la distance m'est très pénible, donc je souffre énormément de ça. Et je me suis dit, quand ce petit chat est venu vers moi, quand on me l'a apporté parce que quelqu'un l'a abandonné, je me suis dit, je vais tenir pour lui. Et quand ce petit chat est mort, je me suis dit, il faut que je me tue parce que je n'ai plus du tout envie de vivre. J'ai plus du tout envie de vivre.
Vous avez reporté beaucoup de choses sur ce petit chat.
Ben oui, j'ai reporté toute l'affection que j'ai pas eue.
Mais vous n'avez pas, vous n'avez
J'adore
pas.
les animaux, d'ailleurs, je comprends même pas qu'on les mange et qu'on les exploite, qu'on les tue.
Oui. Vous n'avez pas une psychologue ou psychiatre qui vous suit en ce moment à l'extérieur?
Non, j'avais laissé tomber mon psychiatre que j'ai vu jusqu'en 2016 ou en 2017 parce que j'étais toujours aussi dépressive et j'étais toujours aussi mal. Et donc, je ne sais pas ce que j'ai les médicaments et les thérapies et tout ce que j'ai essayé, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être complètement...
De tourner en rond.
C'est-à-dire qu'il m'arrive toujours catastrophe sur catastrophe, donc...
Qu'est-ce que vous appelez catastrophe?
Ah ben, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon mari qui m'a quittée, j'ai perdu mes chiens, j'ai perdu mon chat, je n'ai pas d'amis, je me suis retrouvée seule. J'ai des phobies sociales qui m'empêchent de communiquer avec les gens, ou alors j'ai juste des relations utilitaires avec des gens qui profitent pas mal de moi. Ou... Enfin, donc j'ai pas, donc je suis vraiment seule au monde. Donc pour moi, c'est pas très intéressant de vivre comme ça.
Et pourquoi, si vous êtes dans une telle détresse, vous n'avez plus vu aucun thérapeute depuis 2016?
Parce que c'est le parcours du combattant, c'est-à-dire que soit il fallait aller au CMP et c'était trop trop lugubre pour moi parce qu'on ne prenait que 5 minutes et c'était lugubre et j'étais encore plus dépressive en ressortant. Ou soit c'était des gens, je n'avais pas assez d'argent parce que c'est des gens qui prennent, des psychiatres qui prenaient 120, 130 euros.
Mais c'est remboursé ça les psychiatres normalement. Vous savez ça?
Oui, enfin une part, mais j'avais quand même 70 euros à payer de ma poche. Et le seul psychiatre que j'aimais beaucoup est mort. Donc, oui, j'ai l'impression d'être...
Vous savez qu'il y a aussi des services d'écoute gratuits, je pense à la Croix-Rouge Écoute, notamment.
Ah ben là, je ne cesse d'appeler SOS Amitié, SOS Solitude, SOS Suicide, je ne cesse d'appeler. Mais ça me calme, ça m'appelle 5 minutes et puis ça reprend, donc...
Mais oui, parce que je pense que vous avez besoin vraiment de quelqu'un en continu, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous faites une vraie thérapie, que vous allez voir toutes les semaines, à qui vous parlez, et que vous avez pu justement appeler pendant cette période de crise, là, plutôt que d'aller à l'hôpital directement.
Ah ben j'ai appelé, mais c'était occupé, et d'ailleurs je suis allée en thérapie depuis que j'ai 17 ans, j'ai toujours fait des thérapies. Avec des psychiatres, des psychologues, la thérapie comportementaliste, de l'hypnose. Enfin, j'ai tout essayé. Je comprends pas ce que j'ai. Je sais pas.
Et personne n'a jamais réussi à vous faire sortir de là.
Bah, c'est-à-dire que moi, je conçois pas ma vie sans amour et sans. Comme j'ai un physique assez ingrat, j'ai pas pu. Enfin, pas ingrat, mais bon. Enfin, bref, je plais pas vraiment aux gens que. Enfin bon, de toute façon, maintenant, c'est trop tard, j'ai 60 ans. Et surtout, j'ai jamais supporté d'être séparée de mon ancien mari que j'aimais à la folie.
Qui était psychiatre, c'est lui dont vous parlez?
Voilà.
C'était il y a combien de temps, cette rupture?
En fait, c'est très difficile à savoir, parce qu'on a divorcé en 2004, mais ensuite, on est toujours restés proches. Et en 2015, ça a été la vraie rupture, puisqu'il est parti à 100 km de chez moi.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous pouvez appeler pour lui dire où vous êtes, par exemple?
Ah oh ben oui, là, il sait, là, il sait. Là, il sait où je suis.
Et qu'est-ce qu'il vous dit, lui, alors?
Comment?
Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Lui qui vous connaît et qui est en plus un psy.
Eh ben, lui, justement, il est comme moi. Il me dit que la psychiatrie, c'est une catastrophe, que vraiment, il n'y a pas de... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment le parent pauvre de la médecine. Déjà, la médecine, c'est pas terrible, mais c'est... Enfin, on n'est pas très aidé, quoi. Enfin, on ne se sent pas très, très aidé. Il y a des gens qui... Moi, je connais beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de psychothérapie, qui ont vu des psychiatres, ça ne les a pas empêchés de se suicider. Donc,
Est-ce qu'il y a quand même des petites choses que vous faites dans votre vie et qui vous font du bien?
Oui,
Qui vous font
moi, je
tenir
suis
debout?
dans la cause animale parce que depuis toute petite, j'adore les animaux. Mon premier traumatisme a été quand j'ai entendu un hurlement de cochon qui se faisait tuer. J'aime lire, j'aime aller au cinéma. J'ai des petites choses comme ça qui me font du bien, oui.
Et c'est important ça de les continuer. La cause animale, malheureusement, c'est sans fin. Ça veut dire que vous pourriez encore vous investir dans beaucoup de choses. Ils ont besoin de vous, peut-être les associations.
Ah oui, mais le problème, c'est que je suis très timide, j'ai la peur des autres, et en principe, il faut faire ça en commun. Et j'ai beaucoup de mal à communiquer avec les autres parce que je me sens pas très. Enfin, j'ai du mal à être à l'aise avec les gens. Et puis, mais j'écris beaucoup de mails aux politiques, aux gens, enfin, pour améliorer, pour.
Pour défendre la cause animale, vous voulez dire?
Oui, pour défendre la cause animale.
D'accord, vous êtes vraiment très investi, ça vous tient à cœur, ça.
Oui. J'essaie de faire signer à tous les parlementaires le référendum pour les animaux. Oui.
Et quoi d'autre? Quelles sont les petites choses comme ça du quotidien qui vous aident, que vous pourriez développer un peu plus dans les jours et les semaines qui viennent? Vous parlez de cinéma, de sortie?
Ben, c'est tout, là, je vois pas trop. Je sais pas, j'aurais.
Est-ce que vous aimez lire aussi?
Oui, j'aime beaucoup lire, mais là, je peux pas lire. Là, depuis que mon chat est malade, enfin, depuis qu'il est décédé, mais depuis qu'il était malade, je peux plus lire. J'ai essayé de lire Yoga, là,
Oui, il paraît que c'est très très bien ce livre.
c'est très très bien. Mais bon, là, j'ai arrêté.
Pourquoi vous n'arrivez pas à lire? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit?
Eh bien, quand je n'arrive plus à lire, quand je n'arrive plus à comprendre, d'ailleurs, je pensais au témoignage d'une dame là, qui n'arrivait plus à écrire, qui avait été enfermée par son mari. Je sais pas, j'avais un psychiatre qui m'avait dit que j'avais subi trop de violence pour comprendre et que j'étais devenue un peu débile. Quand je sais que je ne peux plus lire, c'est que je sais que je suis en dépression.
C'est comme si quelque part une porte se refermait à l'intérieur.
Voilà, donc je peux plus rien faire et c'est. Je peux plus rien faire et c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que voilà.
Parmi toutes les thérapies que vous avez essayées, est-ce que vous avez essayé l'EMDR, la thérapie par les mouvements oculaires?
Ah oui, j'ai tout essayé, non mais.
Est-ce qu'il y a beaucoup de traumatismes à l'intérieur de votre histoire là? Et je me disais qu'il faudrait
Bah
les
écoute.
prendre un par un pour les débloquer et nettoyer tout ça, quoi.
J'ai essayé le MDR, j'ai essayé la sophrologie, j'ai tout essayé. Là, j'avoue que je suis au bout du rouleau parce que.
Quand vous dites essayer, c'est-à-dire que vous avez fait ça pendant combien de temps, par exemple, sur le MDR?
En fait, c'était. EMDR plus relaxation ou EMDR plus hypnose. Pendant, j'avais fait 8-9 séances.
D'accord.
Donc ça ne me faisait pas du tout rien, donc j'ai arrêté. J'ai jamais pu faire une psychanalyse parce qu'on m'avait dit que j'étais trop mal pour ça. Donc j'ai fait des psychothérapies de soutien, mais.
Est-ce que vous arrivez à faire un petit peu seul de méditation de relaxation, par exemple?
Oui, j'arrive à respirer un peu seule.
Et la méditation accompagnée, guidée?
J'ai essayé d'en faire avec une voisine, mais bon, c'est pas évident non plus. Enfin, là, j'ai essayé d'en faire là aujourd'hui pendant que j'étais hospitalisée, ça m'a un peu calmée.
Oui. Il y en a beaucoup qui sont gratuites et qui sont sur Internet, hein, tout simplement.
Ah oui.
Méditation guidée, vous vous mettez dans un état de relaxation et simplement vous écoutez. C'est plus facile que de le faire tout seul au début.
Oui, oui, j'avais vu ça, oui, mais je n'avais pas encore... Mais j'avais acheté des disques de relaxation et de...
Est-ce que ça, au moins, ça vous fait du bien?
Sans plus. Vraiment, non, mais j'ai l'impression d'être irrécupérable, quoi.
Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que vous voyez tout au noir ce soir, parce qu'effectivement, là, vous venez de vivre une situation qui était brutale pour vous. C'est pas ce que vous vouliez?
Ah non, 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 mais je vois tout en noir depuis que je suis née. Hein. Je vois tout en noir et si vous voulez, je n'arrive ni à vivre et ni à mourir. Donc c'est ce balancement qui est insupportable.
Vous êtes sous médicament, Pascal?
Là, oui, enfin, c'était mon ex-mari qui me les prescrivait. Et là, je vais avoir un autre... Là, on va me doter un autre psychiatre et un psychologue demain. Mais bon, de toute façon, j'ai essayé tous les médicaments possibles et inimaginables, rien ne fait. Ou alors, ça me provoque des effets secondaires atroces. Donc,
Je comprends.
Mais vous voyez, en fait, c'était... Enfin, là, je voulais témoigner quand même de la brutalité des choses.
De ce qui se passe à l'intérieur des services psychiatriques quand la porte se referme.
Voilà, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que... On fait tout pour vous empêcher de vous suicider. Donc, je ne comprends pas déjà cette idée. Et par contre, on ne fait rien pour vous réconforter. Et c'est ça, je ne comprends pas.
Ça va arriver demain, Pascal, vous l'avez bien compris.
Comment ?
Ça va arriver demain, ça.
Toute ma vie, ça a été comme ça. On m'a donné des adresses de psy, voilà. C'est de ma faute, je ne sais pas, mais je ressens quand même une... Par exemple, vous voyez, j'avais un psychiatre qui bâillait sans arrêt. Donc, à un moment, j'ai eu l'impression de me déranger. Ou là, j'ai des personnes, quand mon chat est mort, qui me disent « Bon, bah, c'est qu'un chat, tu vas pas nous en faire une... » Enfin, vous voyez, je reçois pas mal de violence qui m'attend quand même.
Là, j'espère vraiment que demain, on va vous présenter une psychologue et ou un psychiatre qui vont peut-être savoir vous aider différemment, peut-être mieux.
J'espère de tout mon cœur. J'espère que ça va changer parce que là, j'ai déjà eu la force de vous appeler parce que j'écoute votre émission et ça me fait du bien parce que vous êtes très très patiente et très très gentille ainsi que votre collègue.
Vous nous écoutez comment d'ailleurs ce soir?
Là en fait, j'ai votre assistant qui m'a appelé, qui m'a dit de laisser le haut-parleur ouvert.
D'accord,
c'est ça. Je n'ai pas la radio là, je vous ai juste sur mon téléphone, je n'ai pas de radio, je n'ai rien.
Oui, c'est ce que je me demandais, vous nous avez via le téléphone, d'accord. C'est vraiment une chance qu'il vous l'ait laissé.
Oui, oui.
Bon, Pascal, ce que je vous propose, moi, c'est vraiment d'aller vous reposer, si vous arrivez à souffler un petit peu cette nuit, et d'espérer vraiment que demain, on va vous mettre en relation avec une psychologue qui est sur place et qui va pouvoir vous prendre dans ses bras moralement, en tout cas être là pour vous, savoir vous apaiser, savoir trouver les mots, savoir vous écouter.
Oui, comme vous le faites là ce soir, ça fait du bien.
Bon. J'espère vraiment que demain, il y aura quelqu'un comme ça qui sera là pour vous.
J'espère. Je vous remercie beaucoup.
Et quand vous remonterez la pente, pensez à tous ces animaux aussi qui ont besoin de vous.
Oui, ça, j'y pense, oui.
On a besoin de gens comme vous pour s'occuper d'eux, pour défendre cette cause-là, c'est important. Heureusement qu'il y a des gens comme vous qui sont impliqués comme ça.
Je sais, parce que ce sont... sont les êtres les plus niés, les plus niés au monde. Enfin, il y a beaucoup de souffrances humaines, mais eux, ce sont vraiment les êtres les plus niés, les plus maltraités, et qu'on envoie à l'abattoir, qu'on exploite. Enfin, c'est horrible pour moi.
Mais je comprends. Et pourtant, ils nous apportent tellement.
Hein. Oui, oui, je sais.
Donc vraiment, bravo pour ce que vous faites, c'est important.
Bon, merci à vous et merci à toute votre équipe et vous m'avez beaucoup apaisé.
Tant mieux Pascal, et je vous envoie plein de douceur ce soir pour que vous passiez une bonne nuit et que demain matin vous puissiez voir un peu de lumière dans cette nouvelle journée qui arrive.
D'accord, merci beaucoup.
Au revoir Pascal.
Au revoir Sabine, au revoir.